7h48, la revue de presse de Claude Askolovitch.
France Inter, le 7-9.
Claude, on parle d'un pèlerinage.
Une marche vers Compostelle que nous raconte la Croix. Mais il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit des hommes ici-bas dans une vie terrestre qui n'est jamais perdue. Voilà donc la marche d'un jeune homme qu'on a sorti un moment de prison pour le mettre sur la route. Dans le jargon de la justice, ça s'appelle un séjour de rupture. Donc Raphaël, qui a frappé son beau-père, qui a volé, qui a recelé, qui a 16 ans, l'air trompeur d'un chérubin qui culmine à 1m 82. Il chérit son amoureuse Léa qui, elle, le comprend. Plus tard, ils auront 3 enfants et une villa sur une île qu'un tigre gardera. Raphaël a la grâce et les mensonges de son âge. Aux étapes devant les pèlerins, il surjoue le rôle du gamin repenti. Mais pour appeler Léa, il dissimule des téléphones portables alors que son contrat de confiance lui interdit. Il parle à tort et à travers. « Quand j'étais petit, mon rêve était de braquer la Banque de France. Maintenant, c'est d'avoir une vie normale. » Heureusement, la règle lui impose 2 heures de silence par jour pendant la marche et ces 2 heures sont le soulagement de l'adulte qui l'accompagne, car Raphaël ne marche pas seul, mais avec la journaliste Caroline Enfoncy, volontaire pour cette mission, mais qui subit l'adolescent et ses ruses et qui se révèle, quand elle écrit, agacée et dure. Elle force Raphaël à s'excuser auprès d'une dame qui les a hébergés, car il s'est servi une canette dans le frigo sans demander la permission. Elle le décrit aussi, notre Kay, désarçonné, quand il entend dans une abbaye un moine qui joue alors les portes du pénitencier. Est-ce que c'est pour lui? Est-elle notre journaliste attendrie ou sarcastique? La Croix ne nous raconte pas tant Dieu que les humains incertains. Elle nous dit aussi, La Croix, ce matin, que dans nos prisons, les détenus étrangers manquent d'interprètes compétents et c'est une peine qui s'ajoute à celle que, sans doute, ces gens ont méritée. Dans nos journaux, vous lirez des injustices et des cas de conscience. Le Parisien nous apprend que des citoyens russes ordinaires qui vivent et travaillent en France depuis des années sont maltraités par des banques qui appliquent avec trop de zèle les sanctions qui visent M. Poutine. Et Anna, 33 ans, consultante numérique, a vu fin mars son compte bancaire prélevé de ses charges sans qu'il soit pour autant crédité de sa paye. Comme elle est russe, la banque voulait vérifier l'origine des fonds. « Je ne suis pas une oligarque !» dit Anna, qui veut aller en justice. Pendant ce temps, Nice Matin nous dit que des députés ukrainiens pro-russes, des félons, ont trouvé refuge chez nous, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mais ont-ils des comptes en banque français, ceux-là?
On parle aussi d'une croisade.
La longue et patiente croisade que Libération raconte des opposants américains à l'avortement, qui en 50 ans sont sortis du stade groupusculaire pour devenir un mouvement puissant qui a pris les églises évangéliques, la droite conservatrice, le parti républicain et par ce parti a pris la Cour suprême qui se prépare, on le sait, à rayer l'avortement de la liste des droits constitutionnels, renvoyant son autorisation ou son interdiction aux législatures des États. Et au-delà du scandale et des indignations, on est impressionné par la stratégie, les conquêtes par les anti-avortements de ces législatures étatiques et puis des magistratures locales pour tenter des lois que la justice valide. Car contrairement à la France où la politique s'impose majestueuse, l'Amérique avance dans des disputes de droit. Alors lisez, sur le site foisonnant du New York Times, comment c'est une dispute juridique sur une loi anti-avortement de l'État du Mississippi qui sert d'occasion à la majorité conservatrice de la Cour suprême pour abolir peut-être la décision de 1973, Roe contre Wade, qui au nom de la vie privée protégeait nationalement le droit à avorter. Mais lisez aussi comment, depuis l'origine, cette décision est contestée juridiquement et comment on retrouve ces arguments juridiques aujourd'hui. L'avortement peut-il être un sujet constitutionnel national? Ce sont des mots américains. Vous lirez aussi comment, si effectivement Roe contre Wade est aboli, ce sont les femmes pauvres des États républicains qui souffriront. Et vous voyez comment en Amérique, le droit modèle la vie des gens. Lisez enfin comment la Cour suprême, instance juridique absolue, perd dans cette polémique sa légitimité. Elle semble, dit le New York Times, une instance politique divisée, soumise à des fuites, comme n'importe quel organe de Washington. Ce n'est pas le moindre des dégâts que cet abaissement. Après cela, vous pourrez lire, si le cœur vous en dit, l'autodestruction d'un collectif féministe du cinéma français 50-50 qui a explosé après qu'une actrice, Nadège Bosson-Diagne, a accusé la productrice Juliette Favrel-Renaud de l'avoir agressée sexuellement lors d'une soirée arrosée après lui avoir passé la main dans les cheveux. Et ce geste d'une femme blanche envers une femme noire serait déjà un acte de mépris néocolonialiste. Le Monde, entre tendresse et cruauté, ne nous passe rien de ces disputes. On cherche en vain le lien avec la détresse d'une femme pauvre enceinte du Mississippi qui ne peut plus avorter.
Et on parle enfin de remords, Claude.
Dans Le Monde encore et dans Le Figaro, lisez comment l'université de Strasbourg veut purger un passé que longtemps elle ne voulut pas reconnaître quand elle était sous l'occupation la Reichsuniversität Strasbourg. Cette faculté où, pour alimenter la collection de squelettes d'un professeur d'anatomie nazi, on faisait tuer dans le camp du Struthof des internés juifs. D'autres atrocités aussi. L'université a fait enquêter sur son propre passé. La démarche est brave, le résultat perturbant. Vous lirez aussi « Baume au cœur » dans Nice Matin, comment le Haut-Var, pendant la guerre, fut un havre de paix pour les juifs et les résistants. Mais nous avons aussi des consolations contemporaines. La Provence nous raconte une Anglaise de Marseille, Jeanne Bouvier, qui depuis 10 ans accompagne des enfants roms des bidonvilles sur le chemin de l'école. Elle a ainsi sauvé 1000 gosses en 10 ans, 1000 vies, 1000 mondes. Le Monde à nouveau nous dit comment des scientifiques ont étudié les forces et les torsions qui agitent les couches sombres extérieures du corps blanc onctueux des gâteaux Oreo. Ce n'est pas une métaphore. Lisez enfin dans Le Progrès qu'un enfant de 18 ans, Sofiane Damani, se lance dans la bataille des législatives à Villefranche-sur-Saône. Il veut représenter ceux qui ne votent pas. Face à lui, il aura, chez les Républicains, dénommé Alexandre Portier, qui au bahut est son prof de philo.
Merci Claude.
France Inter.